le magazine des Nations Unies.
Le monde a célébré vendredi 21 février la journée internationale de la langue maternelle, qui est la place de l'apprentissage de nos langues maternelles et notamment des quatre langues nationales en RDC. Le magazine des Nations Unies propose une réflexion dans cette édition. Le programme alimentaire mondial PAM veut faire des cantines scolaires une de ses priorités en République démocratique du Congo. Le représentant de cette agence de l'ONU insiste sur la volonté collective pour y parvenir, ainsi que la disponibilité des financements. Ceci entre dans le cadre de la célébration le 1er mars prochain de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Claude Gibillard nous en dira plus dans la rubrique décryptage. Enfin, dans l'humanitaire, bientôt une caravane à travers la RDC. Objectif, s'imprégner de la réalité de la situation humanitaire et apporter quelques assistances aux déplacés ainsi qu'aux autres victimes des catastrophes dans le pays. Ceci en prélude du lancement du plan humanitaire RDC 2020 et du plaidoyer à Genève. Le ministre des Affaires humanitaires, Steve Mbikaï, nous en parle. Il est l'invité de notre magazine ce dimanche.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Magazine des Nations Unies. La communauté internationale célèbre le 21 février de chaque année la Journée internationale de la langue maternelle. L'objectif assigné à cette journée est de promouvoir la diversité linguistique et culturelle, ainsi que le multilinguisme. Les Nations Unies estiment que les apprenants doivent avoir accès à l'éducation dans leur langue maternelle et dans d'autres langues pour favoriser le développement durable. C'est grâce à la maîtrise de sa première langue ou langue maternelle que l'enfant acquiert les compétences de base en lecture, écriture et calcul. Quelle est alors la place actuelle de l'enseignement des langues maternelles en RDC? Je vous propose cette réflexion de Jean-Pierre Ilali Koko.
Depuis l'an 2000, l'ONU insiste sur le fait que les langues locales, en particulier les langues des minorités, transmettent la culture, les valeurs et les savoirs traditionnels. Elles jouent un rôle important dans la promotion d'avenir durable. Ces langues constituent les instruments les plus puissants pour préserver et développer le patrimoine matériel et immatériel d'un peuple. Ça, c'est la philosophie des Nations Unies visant la promotion de la langue maternelle. En République démocratique du Congo, le français est la langue officielle. Outre le français, plus de 400 langues ethniques sont parlées dans le pays. Elles sont considérées comme des langues maternelles. Toutefois, quatre de ces langues ont le statut de langue nationale. Les Kikongo, les Lingala, les Swahili et les Chiluba. On comprend donc que la place de la langue maternelle est très fondamentale. Les linguistes considèrent que la maîtrise de la langue maternelle facilite l'apprentissage d'une langue étrangère. C'est dans cette logique que le système éducatif congolais prévoit au degré élémentaire, l'apprentissage de nos quatre langues nationales correspondant aux quatre grands déserts linguistiques du pays. Mais en réalité, cette mesure n'est pas toujours suivie d'application. Pour rappel, la langue maternelle que certains appellent langue natale désigne la première langue qu'un enfant apprend. Dans certains cas, lorsque l'enfant est éduqué par des parents ou des personnes parlant les langues différentes, il peut acquérir ces langues simultanément, chacune pouvant être considérée comme une langue maternelle. C'est le cas par exemple d'un enfant quinois qui parle Kikongo en famille et le Lingala dans l'entourage immédiat.
D'une journée à une autre, le 1er mars prochain, l'on célébrera la Journée africaine de l'alimentation scolaire ou des cantines scolaires. Le programme alimentaire mondial PAM en fait une des priorités et à la fois un défi à relever en République démocratique du Congo. Dans une interview accordée à Radio Kapi, le représentant du PAM souligne toute l'importance des cantines scolaires dans un pays comme la RDC. Claude Gibidard, dans cet extrait choisi par Jean-Pierre Ilali Koko.
La lutte contre la malnutrition et l'éducation, la scolarisation sont deux choses qui se rejoignent. Donc oui, les cantines scolaires peuvent contribuer à la lutte contre la malnutrition. Elles peuvent aussi constituer un élément de réponse à d'autres défis. Et je vous en cite quelques-uns. Encourager les parents à mettre leurs enfants à l'école, on le voit, et à les maintenir à l'école, et particulièrement les filles. Ça aide, comme je l'ai dit, les enfants à mieux se concentrer. Et nous avons fait des études qui démontrent que dans les écoles où il y a des cantines scolaires, les taux de réussite sont bien meilleures.
L'intégralité de l'entretien avec le représentant du PAM, c'est dans la rubrique décryptage. Poursuite de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le Congo central. Elle a été lancée jeudi dans les 31 zones de santé que compte cette province. 800 000 enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés lors de la première phase de cette opération le 6 février dernier. Le chef de la division provinciale de la santé, le docteur Kim Futa, invite les parents à présenter leurs enfants aux vaccinateurs. Nana Plurich Mambo pour les détails.
D'après Richard Letchou, délégué de l'OMS au Congo central, dans 27 des 31 zones de santé, les résultats ont été validés. Les enquêteurs dépêchés pour les suivis de la campagne de vaccination sur les terrains indiquent que, dans certaines zones, les enfants ne se sont pas présentés. À Kimpese, par exemple, la majorité des enfants accompagnent leur maman au champ du matin au soir. À Kisantu, les vaccinateurs ont fait face à la résistance des adeptes de la secte Makolongulu. Dans les zones d'Enselo et d'Engidinga, les pluies abondantes et régulières ont fait que beaucoup d'enfants ont manqué les vaccins. Par ailleurs, face à la réticence de certains, les chefs des divisions provinciales à la santé lancent ces messages.
Le message, c'est de dire aux parents de ne pas avoir peur. Nous le faisons pour l'intérêt de nos enfants. Je ne vois pas quel est ce gouvernement qui peut causer du tort à sa population. Je crois que si le gouvernement et ses partenaires ont décidé de le faire, c'est pour l'intérêt général de la population et de nos enfants. Donc que les parents n'aient pas peur, le vaccin n'est pas un danger. C'est au contraire, c'est pour augmenter l'immunité. Ce sont des doses supplémentaires qu'on ajoute pour, dans l'optique d'améliorer l'immunité collective de nos enfants.
Docteur Jacques Kimfuta dit avoir pris les dispositions pour récupérer les enfants qui n'avaient pas été vaccinés lors de la première phase. Nana Plurich Mambu, Matadi, Radio Okapi.
La deuxième phase de cette même campagne de vaccination contre la polio se déroule également dans la province du Kwilu. Ici, 51 170 enfants de 0 à 59 mois sont attendus. Chaque enfant recevra 2 gouttes de vaccin anti-polio par voie orale lors du passage des infirmiers de porte à porte.
Magazine des Nations Unies. Décryptage.
Nous le disions en titre, le monde célèbre le 1er mars la journée mondiale des cantines scolaires. Le programme alimentaire mondial considère les cantines scolaires comme un élément de cohésion sociale. Le représentant du PAM en RDC en fait une des priorités et invite les partenaires dont le gouvernement à mobiliser des ressources financières pour matérialiser et soutenir les cantines scolaires. Claire Jubidar s'entretient avec Jean-Pierre Elali et Coco.
Claude Jubidar, bonjour.
Bonjour.
D'abord, c'est quoi une cantine scolaire? Comment s'organise-t-elle et quels sont les aliments qui entre en ligne?
Alors, la cantine scolaire est en fait un repas équilibré qui est donné chaque jour à chaque élève dans chaque école où cette initiative est mise en œuvre. Alors, pour mettre ça en œuvre, on forme des comités locaux qui ont la charge de gérer ces cantines. Et en termes d'aliments, c'est généralement des céréales, du riz ou du maïs, dans le cas de la RDC, parce que ce sont les denrées nutritionnelles qui sont consommées. C'est des haricots, c'est de l'huile, c'est du sel. Mais en fonction des communautés, parce que la cantine scolaire implique les communautés, non seulement dans la gestion, mais aussi dans l'amélioration de l'apport nutritionnel. Donc dans certaines communautés, les communautés elles-mêmes mettent à disposition des légumes, des choux, des oignons, des aubergines, des tomates, ainsi de suite, pour compléter justement le riz, les haricots, le sel.
Mais c'est organisé par le PAM.
Disons que nous travaillons avec les communautés pour mettre en place ces activités.
Claude, en RDC, 5 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë et 43% accusent un retard de croissance. En quoi une cantine scolaire peut-elle être une des solutions?
Une des solutions. Parce que la cantine scolaire elle-même ne peut pas être l'unique solution. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les cantines scolaires en RDC assistent seulement 124 000 enfants. Mais laissez-moi vous rappeler un peu le contexte de l'insécurité alimentaire dans le pays. Au jour d'aujourd'hui, dans l'ensemble de la RDC, nous avons évalué conjointement avec le ministère de l'Agriculture et la FAO que 15,6 millions de personnes sont en besoin d'assistance alimentaire urgente. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont dans une situation où ils vont se coucher le ventre vide et ce sont des gens pour qui potentiellement leur santé se détériore ou peut se détériorer. Au-delà de cela, il y a encore 27 millions de gens. Et et certains d'entre eux, peut-être même dans la ville de Kinshasa ici, qui n'ont qu'un repas par jour. Donc des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Et parmi tous ces millions de gens, bien sûr, il y a des enfants. Il y a plein d'enfants. Ça veut dire que combattre la malnutrition va de pair et peut aller de pair avec la scolarisation. Ce que je veux dire, c'est qu'un enfant qui bénéficie d'un repas à la cantine est un enfant qui peut être à même de mieux apprendre. Un enfant qui bénéficie d'un repas à la cantine, c'est aussi un enfant dont la situation nutritionnelle va s'améliorer. Donc vous voyez, la lutte contre la malnutrition et l'éducation, la scolarisation sont deux choses qui se rejoignent. Donc oui, les cantines scolaires peuvent contribuer à la lutte contre la malnutrition. Elles peuvent aussi constituer un élément de réponse à d'autres défis. Et je vous en cite quelques-uns. Encourager les parents à mettre leurs enfants à l'école, on le voit, et à les maintenir à l'école, et particulièrement les filles. Ça aide, comme je l'ai dit, les enfants à mieux se concentrer. Et nous avons fait des études qui démontrent que dans les écoles où il y a des cantines scolaires, les taux de réussite sont bien meilleurs.
Justement, pouvez-nous donner quelques exemples où cela se passe?
Alors, je vais vous donner des exemples, pas de la RDC, parce que nous n'avons pas des grandes cantines scolaires, mais vous allez au Burkina Faso, par exemple.
Non, je voudrais revenir sur la RDC, parce que les PAM aussi travaillent là-dessus.
Oui, nous avons quelques cantines scolaires, mais nous n'avons pas des cantines scolaires à l'échelle pour pouvoir en tirer des conclusions sur la durée, sur le temps.
Et à Rutshuru, par exemple?
À Rutshuru, nous avons effectivement des cantines scolaires. Ce qu'on sait, c'est que à Rutshuru, il y a une cantine scolaire qui fait que les communautés où il y a des personnes déplacées, qui vivent dans les communautés d'accueil, leurs enfants se retrouvent à l'école. Donc ces enfants déplacés et les enfants locaux se retrouvent ensemble à l'école. Ça, c'est un autre impact positif. Ça veut dire que les communautés peuvent aller vers une cohésion encore meilleure parce que tous ces gens se retrouvent autour d'une même cohésion sociale.
Oui.
Parce que les gens sont impliqués dans les mêmes activités, déplacées ou communautés hautes. Voilà quelques-uns des impacts positifs.
Il y a aussi une expérience au Tanganyika.
Tout à fait. D'abord au Rutshuru, c'est une expérience qui est financée par le Canada. Les demandes sont encore plus grandes que ce que nous pouvons faire. Dans le Tanganyika, nous avons aussi des cantines scolaires financées par le Japon pour celle-là, où on a aussi des enfants déplacés qui sont dans les mêmes écoles que les communautés hautes. Et vous savez qu'au Tanganyika, il y a des problèmes de tension intercommunautaire qui sont quelquefois exacerbés. Et c'est important que des activités puissent amener ensemble ces différents communautés. Je peux vous donner un autre exemple de cantine scolaire qui est dans la zone impactée par l'Ebola. Pourquoi nous avons tout fait pour essayer de mettre des cantines scolaires là-bas? Simplement parce que ce problème a créé une situation totalement anormale où les enfants n'allaient plus à l'école. Tout essayer pour qu'on puisse ramener des enfants à l'école. Ce sont des activités que nous essayons de mener avec beaucoup d'autres partenaires. Bon, bien sûr le gouvernement, hein, le gouvernement central, mais le gouvernement provincial, territorial, d'autres partenaires comme l'UNICEF ou la FAO, qui eux aussi peuvent jouer des rôles importants dans ces activités de cantine scolaire.
Claude, les quelques cantines scolaires du PAM sont localisées, vous l'avez dit, dans l'est du pays, dans les zones des conflits, et au Tanganyika et aussi bien sûr dans le Nord Kivu. L'impact de la cantine scolaire sur le rendement scolaire et cognitif de l'enfant n'est plus à démontrer. Mais pourquoi le PAM tarde-t-il à étendre cette expérience, cette bonne expérience, je peux dire, dans tous les pays?
Vous savez, il peut exister des bonnes idées, mais il faut les moyens pour le mettre en place. Je ne vais pas vous dire les défis que représente l'éducation dans ce pays. Donner à manger tous les jours de l'année à tous les enfants dans les écoles congolaises, imaginez combien cela peut coûter. Donc il y a un réel problème de financement.
Mais il faut commencer quelque part.
C'est le gros de mon travail. Mm-hmm. Les cantines scolaires ne sont qu'une partie des activités que nous menons. Mais je veux quand même vous rappeler qu'au-delà des 124 000 enfants qui bénéficient d'une cantine scolaire,
Ce qui est peu,
mais c'est 6,9 millions de gens qui ont reçu une assistance alimentaire du PAM l'année dernière. On peut faire un certain nombre de choses. Ce que j'aimerais, c'est qu'une priorité soit donnée aux cantines scolaires. Les cantines scolaires ne sont pas le travail uniquement du PAM. C'est notre travail. Vous ne voulez pas que vos enfants aillent à l'école et qu'ils puissent manger quelque chose? Vous n'attendez pas que quelqu'un le fasse. Ce que je veux dire par là, c'est que nous voulons que les cantines scolaires deviennent une priorité nationale.
Pour le gouvernement?
Pour le gouvernement, bien sûr. On ne peut pas faire ça sans le gouvernement.
Est-ce qu'il existe jusque-là un programme national de cantines scolaires?
Non, nous sommes engagés avec le gouvernement. Nous discutons, nous avons fait un certain nombre d'études ensemble. Mmh. Nous avançons pour justement travailler ensemble à l'élaboration, je l'espère, d'un programme national ou d'une politique nationale de cantine scolaire. Et nous sommes ouverts à apporter notre soutien technique à l'élaboration de cela. Mais une fois que c'est élaboré, il faut passer de là, passer à la pratique. Le PAM ne pourra de toute façon pas seul s'occuper de toutes les cantines scolaires dans ce pays. Nous sommes ici pour apporter un appui au gouvernement. Et les discussions que nous avons, c'est justement de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec le gouvernement pour amener les cantines scolaires à devenir une priorité. Pour que non seulement on ait une politique, mais qu'on ait un cadre législatif, juridique, qui permette de faire que tout le monde s'implique à trouver des solutions pour la mise en place de cantines scolaires. Mais ça veut aussi dire qu'il faut mettre de l'argent sur la table. C'est tout ça ensemble qui va faire qu'on va pouvoir avancer vers la mise en place d'une cantine scolaire pour l'ensemble du pays. Nous avons des pays africains dans lesquels nous travaillons, où aujourd'hui, les cantines scolaires que le PAM essayait de trouver de l'argent pour financer, au bout d'une dizaine d'années, pour certains, c'est le gouvernement qui a pris totalement en charge.
Monsieur le représentant, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut un cadre légal. Est-ce que PAM peut pousser, bien entendu en collaboration avec les ONG et certaines organisations locales, le gouvernement à avoir ces cadres légaux? Est-ce que vous y pensez?
Ce n'est pas qu'on y pense, c'est que nous le faisons déjà. Nous en discutons.
Qu'est-ce que vous avez fait concrètement?
Nous avons rencontré beaucoup de partenaires de différents ministères. Vous savez, cette histoire de cantine scolaire concerne beaucoup de différents ministères, concerne le budget, concerne le plan, les affaires sociales, l'éducation primaire, bien sûr, l'agriculture, la santé. Discussion, nous les avons, nous avançons. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Ben, vous le voyez, la gratuité de l'éducation, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Les cantines scolaires ne se feront pas non plus comme ça. Mais il faut qu'il y ait une décision d'avancer. Et on va avancer. On ne pourra pas le faire du jour au lendemain pour tout le monde, mais ça va se faire et ça va se mettre en place petit à petit.
Claude, le PAM prétend lier les cantines scolaires aux activités de petits exploitants agricoles et dans le cadre du programme P4P. Vous venez d'évoquer cette ambition dans le Nord Ubangi et Sud Ubangi, et cependant à Kabalo dans le Tanganyika, vous en avez parlé aussi, où ces programmes ont été mis en œuvre, donc les P4P. Là, il n'y a pas eu de cantines. Est-ce que vous allez encore revenir sur les financements? Pourquoi les cantines n'ont pas été opérationnelles de ce côté-là?
D'abord, il faut savoir que les cantines scolaires, elles sont déterminées dans des zones bien spécifiques parce qu'il y a un certain nombre de critères, d'indicateurs qui font que nous allons prioriser les activités de cantine scolaire à tel endroit. Des endroits, par exemple, où la participation ou le taux d'enfants qui vont à l'école est très faible, bien sûr, nous allons prioriser ces endroits. Et puis, deuxièmement, il faut les moyens financiers pour tout mettre en place. Nous avons mis en place des activités avec les petits producteurs, mais ça ne veut pas dire que partout où il y a les petits producteurs, il va y avoir des cantines scolaires. Il faut que nous trouvions des bailleurs, des gens qui soient prêts à financer les cantines scolaire, comme on a le Canada qui le fait, comme on a le Japon qui le fait. Si demain je trouve des bailleurs qui sont prêts à financer des cantines scolaires, bien sûr nous allons tout faire pour les mettre en place.
Claude Jubidar, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
À Kinshasa, le vice-ministre en charge de la santé, Albert Petit-Biyombo, et le représentant de l'UNICEF en RDC, Edouard Begbeder, ont lancé officiellement les activités de l'entrepôt moderne de stockage des vaccins et autres produits de santé. Le vice-ministre en Petit a appelé les travailleurs de cet entrepôt moderne à protéger cette infrastructure. Il a insisté sur la maintenance de cet instrument qui, selon lui, répond aux normes internationales et bénéficie de la technologie appropriée en matière de gestion d'entrepôt. La réalisation de cet entrepôt vient répondre à un défi de l'approvisionnement des vaccins, a-t-il poursuivi, ajoutant qu'une économie forte marche de pair avec une population en bonne santé. De son côté, le représentant de l'UNICEF en RDC, Edouard Begbeder, a loué ce joyau architectural bâti sur une superficie totale de 21 000 m². Cet édifice est entièrement équipé avec les mobiliers de bureaux, des équipements informatiques et des engins de manutention de dernière génération dont la conception et la construction est l'œuvre des ingénieurs congolais ayant porté le projet du début à la fin. L'ONG internationale Save the Children a publié jeudi un rapport intitulé « Arrêter à la guerre contre les enfants 2020, les questions de genre ». Ce rapport, qui est le troisième de sa série, révèle que les guerres et les conflits s'intensifient et deviennent de plus en plus dangereux pour les enfants. 170 millions d'enfants vivent dans des zones de conflit, ce qui équivaut à un enfant sur quatre, soit le nombre absolu le plus élevé dans le monde. Selon les données disponibles dans les situations de conflit, les filles sont bien plus susceptibles que les garçons d'être violés ou de subir d'autres formes d'abus sexuels. 87% de tous les cas vérifiés concernent les filles, tandis que 1,5% des garçons sont victimes, indique ce document. Enfin, la société civile de Nyunzu, nous sommes dans les Tanganyika, lance un SOS sur les conditions difficiles des détenus à la prison de cette localité. Cette maison carcérale manque de nourriture et de médicaments. La structure citoyenne s'inquiète de la situation de la quinzaine de détenus qui vivent dans cette prison. L'autorité locale reconnaît la situation. Elle déplore pour sa part le manque de subventions.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité ce dimanche est le ministre des Affaires humanitaires, Steve Mbikai. Il annonce une caravane humanitaire qui va le conduire à travers le pays en prélude du lancement du plan humanitaire 2020 pour la RDC et du plaidoyer qu'il entend faire à Genève début mars. Pourquoi cette caravane et pourquoi un plaidoyer au niveau des Nations Unies? Steve Mbikai aborde ces questions et bien d'autres. Ils sont chrétiens avec Jean-Pierre et Lali Coco.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Le ministère des Affaires humanitaires a annoncé l'organisation d'une caravane humanitaire. À quoi consiste justement cette caravane? Pourquoi vous l'organisez maintenant, aujourd'hui?
La caravane est justifiée par le fait qu'on a connu beaucoup de problèmes sur le plan humanitaire dans le pays. Il y a eu des inondations, il y a eu des conflits qui ont créé trop de problèmes, qui a provoqué beaucoup de déplacés, n'est-ce pas, à Beni, Nitori. Il y en a aussi à Minembwe, à Sukivu, il y a la Nyunzu, Tanganyika, il y a Kamabila, donc au Maniema. Alors, comme nous allons lancer le 28 de ce mois, donc le Premier ministre va lancer le plan de réponse humanitaire en présence des coordonnateurs humanitaires. Il faudrait qu'on ait l'état des lieux réel. Et surtout que le 2 mars, je vais faire un plaidoyer à Genève devant un membre des Nations Unies pour solliciter des fonds humanitaires en faveur donc au pays. Alors il faudrait que j'aille la situation correcte de ce qui se passe. Alors surtout en ce qui concerne les procès en termes. C'est comme ça que cette caravane, ils ont commencé par Beni, ils ont passé par notamment Kindu, ils ont allé à Minembwe, ils ont passé partout là pour le voir et afin de pouvoir aussi apporter un peu d'assistance à ces personnes.
Au cours de cette caravane, vous avez fait passer un message auprès des populations sinistrées ou qui sont dans le besoin?
Oui. Alors, le message que il a fait passer, c'est le message du gouvernement, le message du chef de l'État par rapport au fait que notre gouvernement n'a pas oublié leurs souffrances et que nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour avoir des réponses idoines à leurs préoccupations. Nous serons près d'eux. Voilà pourquoi nous faisons tout, on voyage. Partout là, c'est pour aller solliciter de l'aide, étant donné que l'ampleur de cette catastrophe dépasse les moyens présents au pays. On a bien besoin de la solidarité internationale. Voilà un peu le message qu'on va amener à tous ces gens. Mais surtout, notre souhait est que les conflits s'arrêtent. Pourquoi nous allons passer pour un peu leur montrer que notre gouvernement, n'est-ce pas, à travers le chef de gouvernement, on ne les a pas oubliés.
Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure que vous serez à Genève le 2 mars prochain. C'est pour faire un plaidoyer au niveau de la communauté internationale. Mais l'expérience a montré que la communauté internationale n'agit pas aussi vite qu'on les croit pour venir en aide aux populations de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce plaidoyer va porter quelque chose de nouveau et que la voix de la République démocratique du Congo sera entendue?
Bon, il faut d'abord dire que la responsabilité première pour assister les populations qui sont, n'est-ce pas, en détresse ou sinistrées, revient à l'État. Donc c'est nous qui sommes responsables de ça. Alors nous demandons les autres pour venir en appui à ce que nous faisons. Nous devons nous-mêmes en tant que gouvernement, en tant que nous occupons nos populations qui sont en détresse, qui sont sinistrées. Mais il y a aussi la société internationale qui compte aussi. Nous avons ici beaucoup d'agences de l'ONU, nous avons font les PAM, nous avons ASR, donc tout ça c'est fourni par OCHA. Alors toutes ces agences ont besoin de l'aide, n'est-ce pas, qui viendrait des États membres de l'ONU. Voilà pourquoi nous allons plaider pour qu'on les aide. Et c'est pas pour qu'on donne le moyen à notre gouvernement, mais c'est pour qu'on puisse aider ces agences et ONG internationales et nationales de pouvoir venir en aide à ces populations.
Le gouvernement et bien sûr la coordination humanitaire des Nations Unies, comme vous l'avez dit, vont lancer le 28 février prochain le plan humanitaire 2020 pour la RDC. Alors, quelles sont, selon vous, les urgences humanitaires les plus importantes pour l'instant en République démocratique du Congo?
Non, pour l'instant, les urgences les plus pressantes, c'est d'abord les dépenses internes hein, qui sont trop nombreux, hein, comme j'ai dit, 5 millions c'est pas peu. Il faudrait aider ces gens d'abord à vivre là où ils sont, mais aussi il faut organiser leur retour dans leur milieu habituel où ils vivent souvent. Il y a ça aussi, il y a le fait aussi qu'il y a eu beaucoup d'inondations cette année, il y a beaucoup de sinistrés, les gens qui ont tout perdu, maison et tout ce qui avait combien. Et ces gens, il faut les réinsérer. À mon avis, ce sont là les plus grandes urgences que nous avons. Nous avons des passés internes, mais nous avons aussi les victimes des inondations. À côté de ça, il y a d'autres encore qui sont victimes de conflits communautaires. Voilà.
Ouais. Steve Mbekai, je vous remercie.
C'est moi.
Rendons-nous à Butembo, au Nord Kivu. La police des Nations Unies, à travers le réseau des femmes UNPOL, a apporté une assistance en vivres et non-vivres mercredi dernier aux enfants de l'orphelinat Malaika. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, s'est également jointe à cette activité. Sadiq Aboubakar, reportage.
Très enthousiasmés, les orphelins de la maison Malaika ont accueilli cette délégation conduite par le chef de la police des Nations Unies à Butembo avec sourire aux lèvres. Pour Marie-Jeanne Lama, du réseau des femmes de la police des Nations Unies, cette assistance s'inscrit dans le cadre de la protection des civils et de la lutte contre la maladie à virus Ebola.
C'est être plus proche des enfants, surtout des enfants comme des orphelins. C'est des personnes les plus nécessitées, si vous voulez. Ils ont besoin de notre soutien. Et si nous parlons déjà de la protection des civils, ils font déjà partie de ça parce que c'est des civils. Et voilà des enfants qui vont faire l'avenir de demain. On pense que ces enfants, à travers le réseau des femmes, on pourrait vraiment mettre la joie de vivre dans leur cœur afin qu'ils n'envient pas les autres qui ont des mères, qui ont des parents.
L'UNICEF a été représentée à la cérémonie par Rachel Chocano de la commission communication. Pour elle, la mission primordiale de cette agence des Nations Unies est de s'assurer du bien-être des enfants, des surcroît les plus nécessiteux. Madame Kabuyaya Sylvia Tchoumana Germaine du bureau des affaires sociales de Butembo et la directrice de cet orphelinat, Madame Kavo Ndivito Florence, ont exprimé leur satisfaction tout en souhaitant voir ces actions se multiplier. Butembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Il s'est clôturé dimanche à Goma, au Nord Kivu, le festival culturel Amani. La question de ce dimanche a trait justement à la délocalisation de ce festival. Mathias Gilman, porte-parole AI de la MONUSCO, répond à la question de notre confrère Justin Kabumba, qui a intervenu à partir de Goma.
Justin Kabumba, je travaille pour la télévision panafricaine Afrique Média, correspondant RDC. Monsieur Mathias, je voudrais revenir sur une question qui suscite des réactions au niveau du pays. Votre partenaire que vous soutenez depuis 7 ans est aujourd'hui au centre des controverses, notamment le festival Amani. Il y a la population qui demande que ce festival soit délocalisé au niveau de la partie Grand Nord, notamment Beni. Et il y a également d'autres qui demandent l'annulation totale de cette messe culturelle. Je ne sais pas c'est quoi votre point de vue en tant que MONUSCO, parce que c'est un grand partenaire d'État pour la MONUSCO.
Écoutez, je pense que le festival Amani, c'est effectivement quelque chose qu'on soutient. Notamment, je pense qu'il y a certains journalistes de Kinshasa qui ont pu s'y rendre grâce à nous. On offre un soutien logistique, mais c'est vrai que ce n'est pas notre décision de savoir où il se passe. Je pense que c'est le PNUD qui est réellement en première ligne. Je pense que c'est un grand événement qui a gagné les cœurs de la population de Goma. Donc, je pense que a priori, ce festival a tout lieu de continuer à se dérouler à Goma, sans exclure d'autres activités dans d'autres régions.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Date à retenir, le 27 février, présentation du programme MIX RDC 2017-2018 par le ministère du Plan et l'UNICEF. Et le 28 février, lancement du plan humanitaire RDC 2020. C'est la fin de ce numéro du magazine des Nations Unies. Dieudonné Nyangasa était à la technique, à la coordination, à la réalisation. Jean-Pierre Elali Koko, Jean-Pierre qui était également au reportage. Moi, Babette Pongomassimango, je voulais présenter toute l'équipe. Vous remercie d'avoir suivi ce programme. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Excellente journée dominicale à vous tous.